Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Module 10, on est rendu là. Bienvenue à ton podcast préféré, ton rendez-vous hebdomadaire. On fait quoi ensemble? On prend une marche ensemble, on fait la vaisselle ensemble. Je sais pas comment t'écoutes ton podcast, mais on essaie de se jaser au moins une fois par semaine. Écoutez, ça achève votre cours éthique et professionnalisme. On est dans le dernier droit. Hein, il vous reste trois modules, je dirais. En fait, je suis sûr qu'il vous reste trois modules, donc 10, 11 et 12. Il vous reste aussi votre TP2. Après ça, ce sera l'examen final. Puis après ça, ce sera l'été. Hein, ça s'en vient, ça a l'air de rien, là, mais dehors, il commence à faire... À faire chaud. Ça peut être, non, il ne fait pas si chaud que ça, mais ça s'en vient. Je vous promets. Après ça, votre stage, qu'est-ce qui se passera pour vous cet été? Les vacances pour certains. Le FEC, avez-vous des billets du FEC, vous autres? Compliqué cette année d'avoir des billets. Puis ça s'en vient. Donc, on ne lâche pas. Quelques semaines seulement. Puis après ça, vous pourrez passer à autre chose. Écoutez, module 10 cette semaine, j'ai deux principaux sujets dans ce module 10. On va parler de pression d'autorité et de pression de groupe ou pression groupale. Ce que je vous ai réservé, c'est un petit peu de la psychosociologie cette semaine. Donc, des forces systémiques organisationnelles qui sont exercées sur toi, sur tes collègues. Premièrement, on va voir la force d'autorité sur toi, sur tes collègues, et la force exercée par tes collègues sur toi et sur tes autres collègues. Donc, commençons peut-être par pression d'autorité. On va parler avec ce sujet-là de l'autorité, mais aussi de la soumission, de la contestation à l'autorité, de ton rapport à l'autorité. Hein? Toi, à quoi ça ressemble ton rapport à l'autorité? Puis deuxième sujet, ce sera ton rapport avec tes semblables, je dirais. Est-ce que tu as tendance à te fondre au groupe, à contester les pressions ou l'opinion du groupe? Est-ce que tu es capable de résister si le groupe va dans une direction? Est-ce que tu es capable d'aller dans la direction contraire? Est-ce que tu as tendance à penser comme la majorité ou au contraire, être un petit peu unique à ta manière. Vous allez voir ces deux belles failles humaines qui sont vraiment intéressantes à explorer, notamment là, parce que vous êtes rendus de jeunes adultes, puis c'est important de prendre le temps de réfléchir à votre rapport une fois là, dans votre année, réfléchir à votre rapport à l'autorité, mais aussi votre rapport aux autres, je dirais. Deux failles, donc, on va voir. Ça fait partie des cinq failles humaines que je vous avais promis là, au début de la session. Je vous avais dit, on va explorer tout ça. Je vous avais dit, faites attention. Il y a cinq façons pour moi là, d'explorer le fait que nous sommes normaux. Puis, si vous êtes normal, ou si vous êtes normaux en groupe, vous allez voir, on a tendance à... la première raison, hein, on a tendance à surestimer notre propre intégrité morale. Rappelez-vous, on en a parlé au module 3. Vous avez déjà triché, hein, rappelez-vous. Ça aussi, c'était au module 3. Vous avez déjà triché, puis vous risquez de tricher pour les mêmes raisons. Autre chose que je vous avais promis d'aborder, je vous avais dit, faites attention, votre jugement, il est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. Et ça, on a vu ça. On a vu ça au module 9. Il nous resterait deux dernières failles humaines et ces deux failles, on va les voir au module 10. Faites attention, on a généralement tendance à se plier à l'autorité, ce qui se traduit par toutes sortes de petites problématiques. On va les voir en classe. Et attention aussi, vous avez généralement tendance à plaquer votre comportement sur le comportement de vos collègues. y compris lorsque ces comportements contredisent vos propres valeurs ou ce que vous êtes. Puis ça aussi, ça peut créer toutes sortes de problèmes. Puis, avec cette démonstration-là, là, je dirais que d'ici la fin du cours éthique et professionnalisme, bien, j'aimerais au moins que vous soyez capable de reconnaître ces failles, de reconnaître que vous êtes normaux et donc, vous aussi, vous avez ces failles, puis que vous commencez à réfléchir à des pistes de solutions, hein, que ce soit personnel ou organisationnel, comment on fait pour colmater ces failles, résoudre, trouver des pistes de solutions pour résoudre les problèmes qui sont associés à ces failles, puis pourquoi? Mais pour tenter d'exercer sa profession de façon honnête, encore une fois, intègre, responsable, malgré ses failles. Hein, ça, c'est l'objectif. Donc, je vous invite à être là demain en classe. Sinon, consultez l'enregistrement de cours où on va aborder et approfondir ces thèmes. Je dirais que peut-être je pourrais vous en dire quelques mots au moins sur ces deux thèmes. Si on commence par la soumission à l'autorité, de quoi est-ce qu'on va parler en classe? On va parler notre figure archétypale, ça va être le patron. Hein, c'est quoi votre rapport au patron, mais aussi c'est quoi votre rapport aux différentes formes d'autorité. Hein, plusieurs choses qui exercent une forme d'autorité sur vous, le droit, la morale, le marché économique. Que l'économie, ça exerce une certaine forme d'autorité. Quoi d'autre? Le système professionnel, le code des professions, ça aussi, ça exerce une certaine forme d'autorité sur vous. Il y aura des personnes en position de pouvoir. Moi, hein, votre prof, j'exerce une certaine forme d'autorité sur vous. Vos parents, évidemment, ça peut être une autre forme à avoir en tête là, lorsqu'on tentera de penser ou de réfléchir à votre rapport à l'autorité. Hein? C'est quoi, toi, ton rapport à l'autorité? Est-ce que tu as tendance à te soumettre à l'autorité? Est-ce que tu es capable de défier l'autorité? C'est quand la dernière fois là, que tu as dit non à un patron, un parent? Hein? Comment ça se passe, tout ça, pour toi? Là? Est-ce que pour toi, il y a des bonnes raisons de se soumettre à l'autorité, puis est-ce qu'il y a des bonnes raisons de contester cette autorité? On va réfléchir à ce genre de questions-là en classe parce que dans votre profession, vous allez, bien évidemment, vous allez devoir servir l'autorité en place, mais aussi dans l'exercice de votre profession, on s'attend à ce que parfois vous soyez capable de poser un geste, de poser une question qui vous permettra de rester libre et autonome face à ces différentes pressions d'autorité. Voilà, je pense qu'il faut déjà commencer à y penser un peu. Puis là, je sais que toi, tu te dis, là, tu m'écoutes, puis tu te dis, bien, il n'y en aura pas de problème, Jean-François, là. je suis intègre, je suis autonome, je suis libre, je suis capable de résister à l'autorité. Faites-en pas, mais ce qu'on va voir aussi en classe, demain, mardi, on va voir que statistiquement, c'est loin d'être convaincant. C'est-à-dire qu'un grand pourcentage d'entre vous, vous avez plutôt tendance à vous soumettre à l'autorité. Peu importe, d'ailleurs, ce que l'autorité va vous demander de faire, y compris des gestes, non seulement qui s'éloigne de la loi, mais qui s'éloigne de vos propres valeurs et convictions. On va voir ça en classe avec les expériences de Milgram. Connaissez-vous les expériences de Milgram? En tout cas, on va les revisiter en classe. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà vu ça dans d'autres cours, peut-être au cégep même. Je pense que des fois, il y a des profs qui les abordent en classe. Mais en même temps, c'est intéressant d'y réfléchir là. En ce moment, vous allez bientôt faire face à des figures d'autorité, puis c'est intéressant de réfléchir, repenser votre propre rapport à l'autorité. Donc, votre propre... Et à exercer aussi l'autorité. Ça aussi, ça fait partie des thèmes qu'on va voir en classe. Vous le savez, si vous allez bientôt exercer une profession, puis je dirais même avec une formation universitaire comme la vôtre, en sciences et génie, il y a des bonnes chances qu'un jour vous vous retrouviez aussi en position d'autorité. Vous allez sûrement, éventuellement, là, occuper des postes de direction et donc, ben, vous allez exercer votre autorité sur les autres. Puis, c'est un rôle, puis c'est une fonction, puis c'est un pouvoir qu'on doit exercer avec grande prudence. Puis, vous allez le découvrir aussi en classe, les personnes qui seront sous votre autorité, ils vont exécuter tout ce que vous leur demandez de faire. Tout. Y compris même ce que vous ne leur demandez pas de faire. Juste, ils vont essayer d'anticiper ce que vous aimeriez qu'ils fassent, puis ils vont le faire. Y compris tout ce qui contredit leurs propres valeurs, leurs propres idéaux. Y compris, tiens, je vais le dire plus doucement, là, que vous compreniez les sous-entendus, y compris leurs propres désirs. Vous voyez un petit peu là, comment ça peut être délicat là, exercer une position d'autorité. Vous allez voir les expériences qu'on va voir en classe, c'est assez troublant. Humainement, ce que nous sommes, on a tendance à faire tout ce que l'autorité en place nous demande. Évidemment, il y aura toujours un faible pourcentage de personnes résistantes, puis on aimerait être cette personne qui résiste à l'autorité, une personne insoumise. Mais statistiquement, vous avez plus de chances de vous retrouver dans l'autre groupe. Et deuxième partie, ce qu'on va voir en classe, on va voir aussi la pression de groupe. Donc après la pression d'autorité, on va explorer aussi les pressions groupales. Puis dans cette partie de cours, on va voir une tendance là aussi, à se plier à une différente forme d'autorité, pas l'autorité d'une seule personne, mais de l'autorité du groupe. Hein? Notre tendance à nous fondre au groupe. Nous sommes des êtres sociaux, ça c'est très certain, et on a besoin des autres, on a besoin de leur appui, leur assentiment, puis... C'est essentiel à ce que nous sommes hein, pour nous définir. On se définit aussi par rapport aux autres. Puis cette force sociale, elle peut poser des problèmes dans toutes sortes de contextes. Parfois, on a tendance à se conformer toujours à la majorité, à se conformer aux opinions du nombre. Très peu vont contester la force du groupe. Puis toi, ben, tu vas bientôt t'inscrire. Ben, tu t'inscris en fait déjà dans ce genre de rapport-là. Puis je te connais pas. Mais toi, comment tu gères ça, là, ton rapport au groupe? Comment tu réagis aux pressions de tes amis ou tes collègues de travail ou des membres de ta petite communauté ici à l'université? Est-ce que tu te fonds au groupe ou tu résistes? Tu peux aussi penser aux réseaux sociaux. Hein? Comment tu agis, toi? Est-ce que tu dis comme tout le monde ou est-ce que tu as tendance à te taire lorsque tu as l'impression que la majorité de ton groupe pense différemment de toi ou pointe dans une autre direction? Est-ce que tu es capable, toi, de défier le consensus? Là, tu sens sur ton réseau social que ça s'en va dans une direction. Tout le monde haït ce film-là. Est-ce que toi, tu vas dire, ben non, moi, j'aimais ça. Ou tu dis rien. Ou mieux. Ou quelque chose d'autre. Toi, tu dis le contraire. Non, non, moi, là, vous êtes 22 à dire que c'était pas bon. Là, je vais essayer de vous convaincre que c'était vraiment bon. Hein, comment est-ce? Essaye-le, toi. Tu dis que tu peux résister à une pression de groupe, essaye d'aller dire sur un groupe qu'ils ont tous tort. Tu vas voir que ça peut vite dérailler, puis que le groupe va tenter de te remettre dans l'ordre des choses, te remettre à l'ordre plutôt. Pourtant, c'est le genre de défi là, qui va t'attendre dans l'exercice de ta profession, et être capable parfois de dire le contraire, être capable de te te distancier lorsque l'opinion du groupe ou majoritaire là, s'en va dans un côté. Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans le module 10. On va voir, entre autres, les symptômes de la pensée de groupe. Ce sont des travaux de Irving Janis. C'est notre tendance humaine à nous fondre au consensus. Puis tu vas le voir, là, c'est une belle réflexion. Parce que, je le disais, des fois, pour toi, il va falloir t'éloigner du consensus. Puis pourquoi? Ben pas juste pour le fun, là. Pour toi, c'est souvent pour défendre des visées, des valeurs qui n'ont aucun... Comment je pourrais dire? Qui n'ont rien à voir avec la majorité. Hein? Pour toi, des fois, il va falloir que tu défendes la science, c'est pas une opinion majoritaire, là. Ça s'appuie sur la raison, les faits. Et peu importe si la majorité du groupe pense que la loi de la physique ne fonctionnent pas, ben la vérité scientifique, les faits, ce que ça nous demande, c'est que ça fonctionne. Les lois, de la même façon, si le groupe dit « ben non, c'est illégal », moi je peux le faire parce que je pense que c'est légal, mais... Si tu m'as examiné les lois, les règles, tu vas le savoir, c'est quoi ce qui est légal. Donc, c'est vrai que la majorité, les forces groupales, ça prend de la place dans notre vie, dans la société, mais dans le système, dans l'exercice de la profession, ça prend des personnes comme toi, éventuellement, pour défendre la science, les faits, les lois, les normes, défendre la raison, parfois contre la majorité. Dans un groupe, même s'il y a consensus, parfois il faut intervenir et dire le contraire. Et donc dans le cours, dans le module de 10, c'est notre autre partie du module, on va voir les symptômes, je le disais, de la pensée de groupe d'Irving Janis. Janis a identifié 8 symptômes. Hein, c'est 8 moments. 8 symptômes, c'est comme ça qu'il les nomme. 8 symptômes où, lorsqu'on tente de prendre une décision en groupe, et ça arrivera souvent dans l'exercice de votre profession, il y a 8 petits indices là, que vous devez, des drapeaux rouges, nous dit Janis, où il vous dit, faites attention, là, lorsque ça se passe, ça se peut que ce soit des symptômes de la pensée de groupe. Puis s'il y a trop de symptômes qui s'accumulent, ça se peut que ça mène à des décisions catastrophiques. Lui, il les regroupe en 3 grands problèmes. Le premier problème, c'est la surestimation du groupe. C'est-à-dire que c'est notre tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il ne l'est de fait. Hein? Et là, ici, il nomme 2 symptômes. Le groupe se surestime et il y a 2 symptômes de ça. D'abord, l'illusion d'invulnérabilité. Pour lui, c'est notre tendance à croire que notre groupe a moins de chances de se tromper ou de faire une erreur que les autres groupes. Donc ça, c'est l'illusion d'invulnérabilité. Le deuxième symptôme, c'est la croyance en la moralité inhérente du groupe. Ce que ça veut dire, c'est notre tendance à croire que notre groupe est plus moral que les autres, hein, qu'il a une plus belle conception de la morale que celles et ceux qui appartiennent à un autre groupe. Pensez aux débats politiques, ou sinon aux guerres de religion. Ça en est une belle, ça. La croyance en la moralité inhérente du groupe, mais ça peut se voir à petite échelle aussi. Donc ça, c'est le premier problème, notre tendance à surestimer notre groupe. Ça passe par une surestimation individuelle, mais aussi cumulée avec la surestimation du groupe. Surestimation individuelle, on en a parlé aussi en classe. Un deuxième problème qui est identifié par Janis, c'est la fermeture d'esprit. Donc le groupe se surestime et en plus, il se ferme. Il se ferme à quoi? Ben, il se ferme aux idées externes. Et là aussi, il va identifier 2 symptômes. La rationalisation, c'est comme ça qu'il le nomme, là, mais je dirais que c'est notre, notre tendance à nous inventer des raisons d'agir ou des arguments qui ont l'apparence de la raison pour justifier nos décisions maladroites. Je le formulerai comme ça. Là ici, il faut penser à tous vos... comment ils appellent ça aussi? Les entraves au dialogue. En philosophie, on appelle ça des sophismes, mais ils appellent ça aussi les entraves au dialogue. C'est toutes sortes d'arguments. Ça prend l'apparence de la raison. Ça prend l'apparence de la rigueur, mais en même temps, ça ne l'est pas. On va en voir en classe le plusieurs, là, des outils comme ça. Quel exemple que je pourrais vous donner? Tout le monde le fait, donc c'est bien. Hein, ça a l'air d'être rationnel, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Quel autre? Telle personne, elle a tort, on sait bien, c'est une voleuse. Une voleuse peut avoir raison. On appelle ça l'argument ad hominem, là. Elle peut avoir raison si vous argumentez. Là, elle peut avoir son argument, peut être tout à fait valable, même si par ailleurs sa moralité n'est pas tout à fait à toute épreuve. Donc ça, c'en est un autre argument. On en verra quelques autres exemples en classe. Mais donc, Janice nous dit rationalisation comme autre symptôme. Comme quatrième symptôme, ici on est dans le deuxième symptôme de la deuxième catégorie. C'est pour ça que je dis quatrième symptôme. Il l'appelle le stéréotype à l'égard d'autrui. Ça, ce qu'il veut dire ici, c'est notre tendance à attribuer des qualités aux membres de notre groupe et des défauts à ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Donc là, pensez à des groupes d'amis au secondaire. Votre groupe d'amis a toutes les qualités du monde, puis là, vous regardez les autres, puis vous les jugez, puis ils ont juste des défauts. La vérité, c'est que peu importe dans le groupe dans lequel vous êtes, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, puis c'est pas parce que tu es dans l'autre groupe que tu as des défauts, puis c'est pas parce que tu es dans... pas parce que quelqu'un est dans ton groupe qu'il a nécessairement des qualités, pour le résumer aussi bêtement. Donc, deux problèmes, surestimation du groupe, fermeture d'esprit, on a quatre symptômes, illusion d'invulnérabilité, croyance en la moralité inhérente du groupe, rationalisation, stéréotype à l'égard d'autrui, et Janice finit par, les derniers symptômes, ça fait partie de du troisième grand problème de la pensée de groupe, c'est, il appelle ça le renforcement du conformisme. C'est-à-dire qu'une fois que le groupe se surestime, puis une fois que le groupe s'est fermé, puis s'isole de plus en plus, on se retrouve avec un vrai gros problème. Puis en plus, le problème va avoir tendance à se renforcer et puis à devenir de plus en plus étanche. Il y a des symptômes qu'il nous propose. Le premier, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que des groupes, des individus à l'intérieur d'un groupe, ils ont tendance à se taire. Pensez à vous un peu, là. Les individus au sein d'un groupe ont tendance à se taire lorsqu'ils pensent dévier du consensus. Là, c'est peut-être votre silence lorsque vous voyez certains débats sur les réseaux sociaux, là. Vous voyez que le consensus s'en va dans une direction, puis vous dites, tu sais quoi, moi je parle pas. Je pense le contraire, mais je le dirai pas. Deuxième symptôme, nous dit Janice, pression directe. C'est notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Ça, si vous êtes un petit peu plus actif sur les réseaux sociaux, ça peut ressembler à ça, là. C'est lorsque quelqu'un dit le contraire, puis on lui met des thumbs down, puis des faces fâchées, puis ben oui, on a. Hein, donc, on essaie de le faire taire. C'est exactement le même sort qu'on peut réserver au whistleblower, là. Pensez aux tireurs de sonnettes d'alarme. Tu sais, je vous donnerai quelques exemples en classe, là, mais le sort qu'on réserve aux whistleblower, là, à ceux qui disent publiquement que ça va mal dans un groupe, ceux-là, on les célèbre, là, une fois que les... On les célèbre plutôt une fois qu'on a vu que les problèmes sont réglés, là, mais pensez au sort que vous réserveriez à quelqu'un qui dit haut et fort que ce que vous faites comme groupe, c'est mal. On n'aime vraiment pas ça. Autre symptôme, l'illusion d'unanimité. Donc, on arrive à une certaine forme d'unanimité, mais ce n'est qu'illusion, nous dit Janice. Puis ça, ben, on a tendance à croire que lorsqu'il y a consensus, même si on est conscient qu'il y en a qui se sont sûrement tus et qui se la sont fermés parce qu'ils ont bien vu que le consensus s'en allait dans une autre direction, ben, on dit quand même qu'il y a unanimité. Ça, on aime ça, le mentionner ça dans les PV, là. Unanimité avec des lettres majuscules, même si on sait qu'il y en a plusieurs qui se sont tus, qui pensaient probablement le contraire, puis qui ont décidé de se taire. Et dernier symptôme, uniformisation. Cela, c'est du jargon un peu, mais vous allez voir, c'est assez simple. C'est uniformisation par les gardes de l'esprit. Ça, c'était une expression de Janice bien avant les réseaux sociaux, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui est très actif, des processus et structures qui sont là très actives sur les réseaux sociaux, c'est notre tendance à créer des outils, justement, qui effacent les traces de contestation du consensus, hein, qui effacent les opinions contraires, qui nous met à l'abri des opinions contraires. Puis là, ici, ben, faut voir exactement ce qui se passe avec les algorithmes de nos réseaux sociaux, là. Ils le savent, les algorithmes, que vous n'aimez pas telles opinions, que vous n'aimez pas tel sujet, que vous n'aimez pas telle partie de la société ou tel courant politique. Puis, on va vous mettre à l'abri, puis tranquillement, on va vous enfermer dans vos petites bulles. Puis, vous allez être bien. Hein? Il n'y a rien qui va pouvoir altérer la belle paix sociale qui est dans votre réseau social. Puis il n'y a rien qui va pouvoir choquer ou meurtrir votre ego qui aime penser qu'il a raison puis que tout le monde pense comme lui. Hein? On parle des chambres d'écho, des chambres de résonance. Nommez ça comme vous le voulez, là, mais à l'époque, Janice parlait d'uniformisation par les gardes de l'esprit. Puis même si ça peut sembler un peu ésotérique comme façon de le nommer, c'est exactement ça. C'est le même problème, mais nommé différemment. Ce sera ça, notre module 10. Deux principaux sujets, pression d'autorité et pression de groupe. Deux forces importantes, ben oui, qui peut t'éloigner toi aussi de tes propres valeurs, et des valeurs de ta profession. T'sais, on aime penser qu'on va exercer la profession en défendant nos valeurs, puis j'ai des valeurs profondes et des convictions profondes, puis je suis là pour les défendre. Mais la vérité, statistiquement, en tout cas, c'est que si la pression de l'autorité en place ou la pression de tes pairs dit le contraire ou te pousse dans une autre direction, la réalité, c'est que tu risques de t'éloigner de tes propres valeurs et convictions. Puis ça, on va explorer ça, réfléchir à tout ça ensemble demain au module 10. Ce sera en classe, même heure, même place. Et à la fin de cette exploration de toutes ces petites failles humaines, tu auras atteint, j'espère, les objectifs du module 10. Les objectifs du module 10, c'est d'identifier les forces et failles d'une décision prise par consensus, d'expliquer les symptômes de la pensée de groupe. Tu as déjà un peu de contenu ici dans ce podcast. De nommer des pistes de solutions pour éviter les principaux symptômes de la pensée de groupe. On va voir ça plutôt en classe demain. De reconnaître les différentes formes d'autorité et d'identifier les difficultés d'exercice du jugement professionnel découlant de votre rapport à l'autorité, de votre rapport à vos pairs. Beau programme au module 10. Bien hâte d'avoir ces discussions et réflexions avec vous. Vous allez voir, c'est un module super stimulant. Je suis convaincu que tu vas aimer. Sinon, je vous rappelle que votre TP2, ça s'en vient. En fait, vous avez encore deux week-ends, deux samedis PM peut-être pour vous, là, pour terminer votre TP2. Si pour vous, là, vous aimez ça, travailler à la dernière minute, là, c'est là qu'on est rendu, là. On est à la dernière minute, c'est le moment d'intensifier un petit peu la force de travail. C'est votre moment, là. Let's go, là, vous en êtes capable. Sinon, autre date importante, ben, l'examen final, ça aussi, c'est dans 3 semaines. Donc, c'est le moment d'intensifier votre étude. Ça, je le sais, ça va vite, et on se dirige tranquillement vers la fin de la session. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là encore chaque semaine. Prenez soin de vous. On se revoit en classe demain. Sinon, la semaine prochaine, ici, dans votre podcast préféré. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine, ben, ce sera un des symptômes de la pensée de groupe. Donc, j'en ai nommé 8 symptômes de la pensée de groupe. Pour l'indice, ben, nommez-moi 3 de ces symptômes, puis envoyez-moi ça par courriel.